Seigneur, je te loue vraiment pour ce merveilleux temps dans ta présence. Merci pour la joie de se rassembler comme une famille autour de toi et merci que tu t'es assis au milieu de nous. Tu te réjouis au milieu de nous. Seigneur, on veut vraiment te dire merci. Nous t'aimons et nous voulons te connaître encore davantage. Apprendre à être à tes pieds, Seigneur, à écouter ton cœur et ta voix. Je te prie vraiment que tu mettes tes paroles dans ma bouche, que tu m'aides, Seigneur, et ta grâce soit sur nous ce matin au nom de Jésus. Amen. Avant de commencer dans ce que j'avais préparé, à un moment donné, hier dans la journée, je demandais encore au Seigneur s'il y avait quelque chose, est-ce que c'était ça. Et puis, il y a un mot qui est venu, et puis j'ai demandé deux, trois fois, et ce mot est revenu. Alors, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et c'était manteau. Et alors, j'ai dit, Seigneur, quoi, manteau? Qu'est-ce que c'est? Et puis, ce qui me montait, c'est le manteau de Joseph. Et d'un coup, j'ai vu Jacob, ce père, qui reçoit ce manteau déchiré, souillé de sang. Et ses fils qui lui disent, mais c'est ton fils, c'est les animaux, les bêtes sauvages qui ont tué ton fils. Et Jacob qui dit, mon fils, mis en pièces. Et ça, je crois vraiment que c'était le cœur du Père. Et je crois que Dieu veut nous dire quelque chose ce matin au travers de ce temps. Souvent, on se dit, Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils et que, quelque part, c'était un don qui n'était pas trop difficile. Parce qu'il savait qu'il allait le reprendre, il allait le récupérer quelque part. Et là, c'est comme s'il y avait la douleur du père d'avoir perdu ce fils qui me venait. C'est Jacob. Jacob a perdu son fils. D'un coup, son fils, qui n'avait même pas dû au revoir, il est parti. Détruit par des bêtes sauvages, on lui redonne juste son manteau déchiré. Et le cri de Jacob, le pleur de Jacob, de plus voir son fils, de l'avoir perdu pour toujours. Et de ne pas comprendre pourquoi, de ne pas savoir pourquoi, de se dire, mais c'était le fils que j'aimais, celui en qui je pensais impartir toutes les bénédictions que j'avais reçues, je le considérais comme un fils aîné. C'est lui qui allait être ma lignée, c'est lui qui allait être mon descendant principal, sur qui j'allais déverser la double onction. Je croyais que c'était le fils de la promesse, celui que Dieu avait voulu pour moi, et voilà qu'il m'est enlevé. Et la même chose que le père, je crois que c'est ça, c'est ce fils, il faisait toute ma joie. C'était le soleil de ma vie, c'était le soleil de mes journées. C'était celui qui me donnait la joie de vivre. Et on me l'a enlevé. C'était ceux qui devaient l'accueillir, le peuple d'Israël, on me l'a enlevé ce fils, mais comment c'est possible? Pourquoi m'a-t-on enlevé ce fils? Et je crois qu'il y a une douleur, il y avait une déchirure dans le cœur du père. Il y avait une réelle déchirure, il n'a pas joué. Il n'y a pas eu quelque chose d'un faux semblant dans le père. Il y a eu une souffrance immense. Comme un cri dans le cœur du père d'avoir perdu ce fils. Et alors on peut réaliser aussi quand Jacob a découvert que Joseph était vivant. Et je crois que ça nous parle aussi de la joie du père de se dire, je retrouve mon fils, il m'est rendu. Vous connaissez la parole du fils prodigue qui dit, mon fils qui était mort, voici, il est revenu à la vie. La joie du père qui retrouve son fils. Et je crois que dans le père, il y a la même joie d'avoir retrouvé son fils à la Pâque, à la résurrection. Il est ressuscité. Dans le cœur du Père, il y avait la joie de retrouver réellement celui qui faisait la joie de sa vie et en qui il avait mis toute son affection, tout son amour. Ce n'est pas des paroles vaines. C'est comme si la joie de Dieu avait dû être partie à un moment donné. Tout était enlevé. Il ne savait même plus pourquoi il se levait le matin. Et un jour, on lui rend son fils. Je crois que vraiment le Père désire qu'on réalise, qu'on sache qu'en lui, il y a eu cette réelle souffrance de la mort du Fils de Dieu. Et je parlais la dernière fois, moi je rentrais un peu dans ce que j'avais préparé. D'ailleurs, je voulais juste encore dire, les fils, les frères de Joseph, ils ont été pardonnés par le Père. Ils ont été aimés, et on ne parle même pas de ça. Pourtant, le Père, il a dû se dire à un moment donné, mais comment est-ce possible que mes propres fils aient tué celui que j'aimais? Il aurait pu avoir une haine dans le cœur de Jacob. Il aurait pu avoir un rejet de ses autres fils. Il aurait pu y avoir une coupure et de dire, mais ce que vous avez fait, c'est horrible. Je ne peux pas comprendre ce que vous m'avez fait. C'est bon, vous dégagez de là. Moi, j'ai Joseph, j'ai sa descendance, ça me suffit. Ce que vous avez fait, vous m'avez enlevé des années de ma vie. Vous avez enlevé des années avec le fils que j'aimais, que je chérissais, le fils de ma Rachel, que j'ai toujours aimé. Vous me l'avez enlevé. Vous étiez que les fils de Léa. Et vous avez osé m'enlever mon Joseph. Mais disparaissez de ma vie, il aurait pu dire ça, Jacob. Et non, on voit pas ça. On voit que Jacob aime ses fils, il prophétise sur eux, il les chérit, il leur pardonne, il les aime. Il reconnaît que la main de Dieu était derrière. Il reconnaît que malgré la douleur qu'il a pu vivre, malgré la souffrance, malgré que Dieu ne lui ait même pas dit qu'on allait lui enlever son Joseph. Vous voyez, quand Jacob repart en Égypte, il y a une parole de Dieu qui vient. Il lui dit, Jacob, n'aie pas peur, va en Égypte. Là-bas, je te bénirai, etc. Et je te ramènerai. Et Joseph va même être avec toi. Et comment ça se fait que Dieu le lui dit, 14 ans ou je ne sais pas, au moins 10 ans après, il aurait pu le lui dire sur le moment, au lieu de le laisser pleurer pendant ces 10 années, au lieu de le laisser se désespérer, se morfondre sur sa vie, sur la disparition de son fils, Dieu ne lui dit rien. Dieu garde le silence, on ne comprend pas pourquoi. Il lui dit juste au dernier moment, quand il sait déjà, il dit, oui, Joseph, effectivement, il vit bien, il va t'accueillir. Il y a des silences de Dieu qu'on ne comprend pas. Il y a des silences de Dieu qui nous étonnent. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Il sait le travail qu'il fait dans les cœurs. Il sait le travail qu'il a fait dans le cœur de Jacob. Et Jacob a pu revivre sa vie de famille complète avec ses enfants, avec tous ses enfants. Amen. Alléluia, Jésus. Merci, papa, pour l'amour que tu avais pour ton fils. Alléluia. Merci parce que c'est le même que tu as pour nous. J'avais partagé il y a pas longtemps, la dernière fois que j'avais parlé sur le fait que j'avais vraiment reçu à un moment donné aussi cette vision du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est comme un feu brûlant. C'est un feu dans lequel il y a une porte qui a été bâtie pour qu'on puisse s'approcher du cœur de Dieu. Amen. Quand on vient dans la présence de Dieu, on peut être simplement dans la louange, on peut être dans la prière, on peut se tourner vers Dieu. Et quelque part, c'est comme si Dieu disait, mais tu sais, il y a comme encore une porte dérobée, un accès dans lequel tu peux aller. Et cet accès va directement à mon cœur. Et quand tu prends cette porte, quand tu prends ce chemin, tu t'arrives à mon cœur brûlant. Et mon cœur est un cœur brûlant de passion. Dans le cœur de Dieu, il n'y a pas une once de reproche. Il n'y a pas une once d'accusation. Il n'y a rien. Il n'y a qu'un cœur brûlant qui bat passionnément pour les siens, pour ses enfants. Et ce cœur, Dieu nous invite à venir par cette porte, à la prendre. Et quand j'avais vu ça, j'ai dit, Seigneur, c'est quoi cette porte? Qu'est-ce que dit de cette porte ta parole? Et ce que j'avais eu comme pensée, c'est qu'à la croix, Jésus, son côté a été percé. Le côté de Jésus a été percé, ça a été jusqu'à son cœur. Et en Dieu, il y a un côté percé. Aujourd'hui en Dieu, le côté de Dieu est comme percé. Parce que son fils a été percé à la croix, il y a eu un percement dans le cœur du Dieu vivant d'aujourd'hui. Et ce percement, c'est pour dire à ses fils, à ses filles, ah, venez, entrez dans ma présence, venez jusqu'à mon cœur. C'est là que je vous veux. C'est dans mon cœur, dans le feu de mon cœur. Je veux que vous puissiez connaître l'amour et la passion que j'ai pour vous. Amen. Et ça m'avait pensé aussi aux mains. Les mains de Jésus ont été percées et ton nom était gravé sur les mains de Jésus. Ton nom est gravé dans les mains du Sauveur. Le clou qui perçait ses mains, il y avait ton nom dessus et ça a gravé les mains de Jésus. Sur la lance qui a percé son côté, il y avait ton nom. Et ton nom a été jusqu'au cœur. Et dans le cœur de Jésus, il y a ton nom de gravé. Et le verset qui me parlait, c'est ce verset que je voudrais continuer aujourd'hui, c'est Cantique 8:6. Vous vous rappelez de ce verset? Je ne vois plus où je l'ai noté. Cantique 8:6. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Mets-moi comme un sceau sur tes mains. Comme un sceau sur ton bras. Comme un sceau sur ton cœur, le Seigneur, nous, mes amis, il nous a scellés. Il a scellé son cœur avec notre nom. Le sceau, c'est pour dire c'est quelque chose qui n'a pas le droit d'être rompu. C'est quelque chose de scellé, c'est quelque chose de définitif. Le cœur de Dieu est scellé d'amour pour toi. Ses mains sont scellées avec ton nom. Voici, je t'ai gravé sur mes mains et je ne t'oublierai pas. Amen. Je t'ai mis comme un sceau sur mon cœur et comme un sceau sur mes mains. Je t'ai uni à ma vie, tu fais partie de moi, tu fais partie intégrante de mon être. Il n'y a pas de séparation. Nous sommes devenus un. Cette unité ne se voit pas totalement encore, mais elle viendra quand on sera dans mon royaume complet, nous serons plus qu'un. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. C'est marrant, je me disais, moi j'aurais dit l'amour est plus fort que la mort. Et le Seigneur, pour l'instant, il dit l'amour est fort comme la mort. Pourquoi la mort? Parce que la mort, de toute façon, on ira tous vers la mort. Et l'amour de Dieu, c'est comme pour dire, l'amour de Dieu est pour chacun de vous de la même façon. L'amour de Dieu est fort comme la mort. On n'en revient pas de la mort. Une fois qu'on est mort, on ne peut pas revenir. L'amour de Dieu, tu ne peux pas en revenir. Une fois que tu as goûté à l'amour de Dieu, tu es accro, tu es attaché à l'amour de Dieu. Alléluia. Et la jalousie, je voulais rester sur l'amour. Est-ce qu'on peut prendre dans Éphésiens 3? Verset 14, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Amen. Est-ce que le Christ habite dans nos cœurs par la foi? Et vous savez que nous habitons dans son cœur aussi. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. C'est un des objectifs de Dieu. Que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Et l'amour de Dieu n'est pas un mot. C'est pas un sentiment. C'est pas quelque chose que Dieu dit, à la limite, je t'offre mon amour si t'en veux, si t'en veux pas, tant pis. C'est ce qui fait la respiration de Dieu. L'amour de Dieu est un feu qui le passionne. Dieu vit d'amour. Il ne peut pas se passer de l'amour. Et cet amour, il veut que nous en soyons fondés, enracinés dans cet amour, que plus rien ne peut nous en enlever. Que pour nous, ce soit quelque chose d'aussi fort que la mort, quelque chose d'aussi certain, quelque chose dans lequel on ne peut plus nous enlever de là, du fait que nous sommes aimés de Dieu. Pour être capable de comprendre avec tous les saints, comprendre, ça veut dire connaître, ça veut dire que ça fait partie de mon expérience, ça fait partie de mon vécu, ça fait partie de moi. C'est saisir saisir quelque chose comme pour en faire son propre bien, c'est le sens du mot à l'origine. Saisir quelque chose comme pour en faire son propre bien, se l'approprier. C'est comme faire une saisie. Quand je vais faire une saisie de quelque chose, j'ai pris à quelqu'un, je le prends, c'est à moi. J'en prends possession. Je comprends, ça veut dire, je m'en saisis, je me l'approprie. J'en fais mon bien, j'en prends possession. Je me saisis avec tous les saints de l'amour de Christ pour saisir quelle est sa largeur, sa profondeur, sa hauteur. En saisir toutes les dimensions, saisir toute son amplitude. Tout son sens, toute sa valeur, le rechercher, chercher à le comprendre, à savoir ce qui est dedans. Pas juste me contenter du mot amour, pas juste me contenter de l'idée que Dieu m'aime, mais aller chercher comme un chercheur, comme un scientifique qui va étudier jusqu'à fond et qui passe des heures, aller creuser, chercher dans l'amour de Christ, qui surpasse même toute connaissance. En sorte, pourquoi ? Ah non, et de connaître l'amour de Christ. Je ne peux pas m'arrêter là. Le Seigneur pousse encore plus loin le bouchon. Non seulement je dois être enraciné, je dois être fondé, je dois aller le saisir, m'en emparer. Et je dois encore chercher à le connaître, à en devenir un, à être uni à cet amour, à ce qu'il n'est plus, il n'y a plus que lui et moi quelque part. Que cet amour, j'en ai fait l'expérience totale. Je ne peux pas m'arrêter avant. Quel est l'objectif final? Afin que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Est-ce que vous pensez que c'est un bel objectif? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup de faire le chemin? Je pense que Dieu nous a donné déjà beaucoup de choses et on a même déjà beaucoup de connaissances. Mais quelque part, maintenant, c'est le temps d'aller au-delà de notre connaissance. C'est le temps d'aller prendre la porte, la petite porte dérobée, nous approcher du cœur de Dieu pour commencer à être embrasé de l'amour de Dieu. On avait pris un chant, David il nous a appris un chant vendredi soir, c'est le prix de l'amour. Vous vous rappelez un des chants? C'est tout ce que j'ai retenu. Mais il y a le prix, la mort du Fils de Dieu, c'est le prix de l'amour. Romains 8, 35 nous dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, etc. Romains 8, 39, ni la hauteur, ni la profondeur, rien, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus. Éphésiens 1, 5, Dieu nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. L'amour de Dieu est quelque chose de réel et nous devons commencer à vouloir y plonger. C'est comme si l'amour de Dieu était un immense océan, on est sur une plage et on bronze. On est en train de regarder l'océan et on l'admire. On est en train de dire, mais qu'est-ce qu'on est bien à regarder cet amour? Et Dieu me dit, tu sais quoi? Maintenant j'aimerais que tu y rentres. Maintenant j'aimerais que tu commences à te mouiller, à sentir l'amour, à y plonger. Et pas seulement viens avec les pieds. Bien sûr, tu peux commencer à y mettre les pieds. Tu vas commencer à goûter la température de mon amour. Mais à un moment donné, quand tu goûteras, tu diras, mais qu'est-ce que l'eau, elle est bonne. Et puis tu vas commencer à rentrer plus loin. Et le Seigneur va te dire, mais tu viens plus loin, tu rentres plus profondément. Et Dieu nous invite à rentrer plus profondément dans son amour. À savoir que son amour, c'est toute sa plénitude. C'est lui totalement. Et il veut qu'on rentre totalement en lui. Il veut qu'on ne reste pas juste devant le fronton, devant le trône, en train peut-être de louer et d'adorer, en train peut-être d'entendre des choses, peut-être en train d'apprendre des choses, mais il veut que je commence à rentrer plus profondément dans son intimité à lui, dans qui il est, dans l'amour qui est en lui, que je commence à savoir ce que veut dire son amour. Pas seulement en entendre. Il y a un verset souvent en ce moment j'ai besoin de redire, c'est encore Jean 3,16, hein. Dieu a tellement aimé qu'il a donné son fils afin que je ne meure pas. Et si on prend Galates 2,20, qui lui fait un peu symétrie, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu arriveras à me le mettre. Et si on le prenait à la fin, le Fils de Dieu m'a tellement aimé qu'il s'est livré lui-même pour moi. C'est comme Jean 3,16. Jean 3,16, c'est le Père qui fait l'œuvre. Galates 2,20, c'est le Fils. Il dit les mêmes choses. Je t'ai tellement aimé que je me suis livré moi-même pour toi. Afin qu'en croyant en moi, le Père, il a dit, si tu crois au Fils, tu vis. Tu ne mourras pas. Mais le Fils de Dieu dit, si tu crois en moi, tu mourras. Parce que tu es appelé à mourir à ta propre vie. Tu es appelé à mourir à ce que ta vie aurait pu être si tu ne m'avais pas connu. Mais ça aurait été une vie d'échec, ça aurait été une vie de désillusion en désillusion, une vie de destruction et une vie de détresse à la fin. Mais avec moi, effectivement, tu vas vivre, parce que c'est le cœur du Père, mais ce ne sera plus en fait toi qui vivras, ce sera moi qui vais venir vivre en toi. Et quand je viens avec qui je suis. Et la première et la plus grande des choses qui est en moi, c'est l'amour. Et mon amour est fort comme la mort. Amen. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimé. C'est lui qui m'a aimé le premier. Lui m'a aimé le premier. Lui m'a voulu le premier. Quand tu es en train de découvrir Dieu, quand tu es en train d'apprendre des choses sur Dieu, quand tu es en train de découvrir qui il est, que tu veux l'aimer, ben tu peux toujours te dire, mais en fait, lui m'a déjà voulu avant. C'est lui qui m'a aimé le premier. C'est lui qui est venu à ma recherche. C'est lui qui a parcouru les océans et les mers, qui a traversé les montagnes et les collines pour venir me trouver. Je pourrais parler sur la jalousie. La jalousie est inflexible comme le séjour des morts. Il y a une jalousie en Dieu, une jalousie à ton sujet. Dieu est jaloux. Dieu est comme un mari jaloux. Vous vous rendez compte, Dieu est comme un mari jaloux pour chacun d'entre nous. Il y a une jalousie dans le cœur de Dieu qui fait que si quelqu'un s'approche trop près de toi, il va exciter la jalousie de Dieu. Si quelque chose veut essayer de prendre ton amour pour s'accaparer une partie de ton regard, pour s'accaparer une partie de ton cœur, une partie qu'il prendrait à Dieu pour se l'attribuer à lui, il est en train d'attiser la jalousie de Dieu et d'encourir un danger. Il y a des dangers sur ce qui va vouloir de plus en plus s'attirer notre cœur et notre passion. Jusqu'à présent, Dieu a été patient. La parole de Dieu nous dit que Dieu est lent à la colère. Mais de plus en plus, la jalousie de Dieu va se manifester. Israël a connu la jalousie de Dieu à tel point que la parole de Dieu nous dit que Dieu se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires et un rédempteur viendra pour Sion. Mais quand Israël a voulu se détourner de Dieu et rester éloigné, ils ont été dispersés dans les nations. Ils ont goûté la jalousie de Dieu. Il y a une jalousie de Dieu positive qui fait que Dieu écarte ceux qui veulent m'attaquer. Dieu se révèle en colère contre ceux qui veulent me détruire. Contre ceux qui veulent aussi attirer mon cœur et ma passion. Et Dieu n'est pas d'accord. C'est les idoles. Toutes les idoles attirent la jalousie de Dieu. Dieu les appelle les idoles même de la jalousie. Et Dieu peut détruire ses idoles et s'attaquer. Il y a des fois des choses que Dieu va s'attaquer dans nos vies, on ne comprendra même pas pourquoi. Et ce sera peut-être parce qu'elles se sont apparées une partie de notre cœur et que Dieu ne peut pas le tolérer. Et quand on arrive jusqu'au bout aussi de la résistance à Dieu, Dieu est en train de réveiller sa jalousie pour essayer de nous garder et d'activer l'amour en nous. Amen. J'essaie d'aller un petit peu vite parce qu'il y a encore des choses que je voudrais dire. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. Ces ardeurs sont des ardeurs de feu. C'est une flamme de l'Éternel. Dans Cantique, est-ce que je vous ai dit qu'à Pessa, il lisait le Cantique des Cantiques, justement ? Pessa, en Israël, on lit le Cantique des Cantiques. Pourquoi ? Parce que c'est le livre de la passion de Dieu pour son peuple. Et c'est la passion de Dieu qui a fait que Dieu a donné son Fils pour nous et qui nous a sauvés. Et ce verset en particulier nous parle de la passion de Dieu pour nous. Et quand est-ce que le nom de Dieu apparaît dans Cantique ? Est-ce qu'il apparaît ou pas ? Est-ce que vous savez ça ? Que là. C'est le seul verset où le nom de Dieu apparaît. Pardon, je crois qu'il était affiché. Ces ardeurs sont les ardeurs du feu, une flamme de l'Éternel. Une flamme de l'Éternel, on pourrait dire une fournaise. Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que l'amour de Dieu est comme un feu, une fournaise, comme quelque chose qui brûle. Mais ce n'est pas un feu. Vous savez, on a l'image souvent du feu du buisson ardent. Et je crois que c'est déjà une image de l'amour de Dieu. Il a attiré Moïse et dans le buisson ardent, il voulait révéler la passion qu'il avait pour Israël. Mais le feu du buisson ardent, on l'imagine comme un petit buisson qui brûlait et un feu qui montait par là. Si je le dessinais, j'aurais une petite flamme, 3-4 flammes à la limite. Et puis voilà, wow, l'amour de Dieu est super. C'est déjà pas mal comme image si on a ça. Mais vous savez, je crois que l'amour de Dieu, c'est la fournaise où on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Ça, c'est une image de l'amour de Dieu. C'est une fournaise chauffée 7 fois. Plus fortement que d'habitude. C'est une fournaise qui remplissait peut-être une grande pièce, une immense pièce. Et le feu brûlait à tel point que ceux qui se sont approchés, ils ont été attrapés par les flammes qui jaillissaient du feu, qui léchaient les extérieurs de la salle. Ce feu allait dans toutes les directions, il brûlait. Et ceux qui se sont approchés, ils n'ont pas réussi à rester assez loin de la flamme. Ils ont été brûlés et incendiés sur place. Tellement ce feu était brûlant. Voilà l'image de l'amour de Dieu pour ta vie. Et dans ce feu, Dieu t'invite à t'approcher de ce feu et à faire comme Daniel, à rentrer dans le feu. Tu es appelé à rentrer dans le feu. C'est un feu, et au début, il nous fait peur. Plus on commence à découvrir le feu de l'amour de Dieu, plus il risque de nous terroriser. Rappelez-vous le feu qui est apparu sur le mont Sinaï. Quand Dieu est venu en feu, sur le mont Sinaï, ça a été immense. C'était un feu qui se voyait de loin. C'était une fournaise. Et le peuple a eu peur de ce feu. Il n'a pas osé s'approcher de ce feu. Et quand on voit l'amour de Dieu, on peut se dire, à un moment donné, c'est trop saint, c'est trop pur, ça brille trop. Je sais très bien qui je suis. Je sais très bien quelle est ma nullité, qu'est-ce que je vaux. Ce feu ne peut que me détruire. Je ne serai jamais digne de ce feu. Et Dieu dit, mais c'est pour toi. Je t'ai créé pour le feu. Je t'ai créé pour que tu y viennes. On t'a volé, oui. On t'a empêché de connaître mon feu, oui. Mais viens, parce qu'il est pour toi. Il t'est destiné. Et tu es appelé à rentrer dans le feu. Tu es appelé à t'approcher de ce cœur embrasé et à commencer à être touché par l'amour et à devenir, à être rendu ininflammable. Tu es comme Daniel dans le feu, et dans le feu, il y a Jésus qui s'approche de toi. Il y a des anges qui sont là. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia. Le feu de Dieu. Dans Apocalypse 1, 13, 15, je vis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Amen. Il y a des passages qui nous disent qu'au-dessus de la ceinture, c'est comme si tout était en feu. C'est comme si Christ était tout en feu à partir de la poitrine. C'est le cœur de Jésus est tellement grand, il remplit tout son être. Et c'est tout du feu. Le cœur de Jésus est comme du feu. Et c'est Donatienne qui me disait qu'elle avait été au Sacré-Cœur à Paris, dans la chapelle. Et vous savez ce qu'elle a vu ? Elle a vu un immense tableau qui était dessiné ou peint avec le cœur de Jésus. Un cœur immense. Un cœur brûlant. Et il y avait la France qui était dessinée, toute blanche. Et cette France qui venait apporter la couronne à Jésus. Et notre nation est destinée à connaître la passion du Sauveur. À connaître le cœur de Jésus qui bat comme un feu ardent, comme une fournaise. À être purifié, à être sanctifié et à devenir un feu. Amen. Nous sommes appelés à devenir un feu. Dans Lamentations 4, 1, 2, vous savez, il y avait marqué, oui, parce que qu'est-ce que fait le feu ? Il purifie. Le feu est destiné à purifier l'or. Et dans le passage de Jésus, on voit, il était comme de l'or. Je ne sais pas si je l'ai là, mais il y a d'autres passages où on voit que Jésus est comparé à de l'or pur. Et dans Lamentations 4, 1, 2, on voit qu'il y a marqué ce passage, l'or a perdu son éclat. L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés hélas comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier, des vases qu'on n'a plus qu'à détruire, à casser et à jeter parmi les pierres. Les nobles fils de Sion, c'était tous les princes de Jérusalem, ces princes qui avaient de la valeur, qui avaient de la noblesse, du caractère, qui étaient formés, qui avaient du caractère de Christ qui était en eux. Et à un moment donné, parce qu'il y a eu un rejet de Dieu, un abandon de Dieu, l'ennemi est venu. Et ces nobles fils ont perdu toute leur noblesse. Ils ont perdu tout leur éclat, toute leur lumière, toute la valeur qui était en eux. Ils étaient considérés comme plus rien. Et ça, c'est nous. C'est comme si nous, on avait perdu l'éclat qui était le nôtre. Nous sommes des nobles fils de Sion, des nobles filles de Sion. Et nous avons perdu notre éclat. Nous ne connaissions pas Dieu. Nous étions considérés comme du rebut, sans valeur. Et le Seigneur a aimé, nous a aimés. Et il nous a tant aimés qu'il a voulu nous redonner notre noblesse. Il a voulu nous redonner nos titres. Nous sommes en train de retourner à l'éclat qui est le nôtre, à redevenir semblable à de l'or pur, purifié par le feu de l'amour de Dieu. Nous entrons dans le feu de l'amour de Dieu, et nous sommes purifiés, rendus purs, toutes nos scories, nos impuretés, nos difficultés, nos limites, notre petitesse, notre indignité, toutes les choses, Dieu va commencer à les brûler. Dieu va commencer à les enlever. Il va commencer à enlever tout le plomb qui couvre nos vies. Et manifester l'or pur au milieu de nous, l'or pur que nous sommes, et va nous rendre notre noblesse, nos titres, notre position, pas les uns par rapport aux autres, mais dans la création, nous sommes appelés à régner avec Christ. Nous sommes appelés à régner, à être des rois avec lui, et des princes, et des princesses. Amen. 1 Pierre 1, 5, 7. Par la puissance de Dieu, vous êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Voilà notre destinée. Nous sommes destinés à être traités comme de l'or, à être éprouvés dans des fournaises qui nous semblent difficiles, des choses qu'on ne comprend pas. Des choses qui sont difficiles à vivre, des choses on a l'impression qu'elles vont nous écraser, qu'on va y laisser notre peau, qu'on va y mourir. Et on est en train de passer par le feu de l'amour de Dieu. C'est un feu qui est en train d'enlever des choses qui devaient disparaître. Et alors l'or pur va jaillir, il va ressortir. Et il y aura le résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Et nous serons comme les nobles fils de Sion, nous remarcherons dans les rues de la ville avec noblesse, avec joie, avec fierté, les uns à côté des autres. Amen. Amen. Voilà notre destinée. J'aimerais terminer par un passage qui m'a touché ce matin encore, dans Ézéchiel. Ézéchiel. Je vais commencer par le chapitre 1. Vous rappelez Ézéchiel 1, qu'est-ce que c'est ? C'est le départ de la gloire de Dieu. Le feu de Dieu, c'est comme la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est comme l'amour de Dieu. Ce sont toutes des choses, ce sont des mots interchangeables, ce sont des mots qui s'expliquent les uns les autres, qui essayent de donner une image de ce que Dieu est, de ce que Dieu, comment Dieu agit, comment il est au milieu de nous. Verset 4. Je regardais, et voici, il vint du nord un vent de tempête, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait tout autour de la clarté. Il y avait comme un éclat étincelant au milieu d'elle. au milieu du feu. Vous vous rendez compte, il y a déjà une gerbe de feu qui est comme une fournaise ardente. Ça brille de mille feux. Et au milieu de ce feu, il y a encore un éclat qui brille au-dessus de la fournaise. Il y a quelque chose d'encore plus brillant que la fournaise elle-même. Voilà le feu de l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu qui est brûlant, qui est passionné. Et au milieu de cette passion, il y a encore une passion plus grande. Au milieu de la gloire de Dieu qui nous brille, qui brille déjà, au milieu, il y a encore une gloire encore plus grande. Au milieu du feu, il y a encore un feu plus grand. Un feu qui jaillit, qui sort. Alléluia. Verset 13. L'apparence des animaux avait l'aspect de charbon ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux, et ce feu circulait entre les animaux. Le feu répandait une clarté, et du feu sortaient des éclairs. Dieu veut commencer à nous faire voir le feu qui est en lui. Dieu est brûlant. Il y a une ardeur. Il y a des fulgues. J'ai pas dit dans Cantique 8.6, Chouraki traduit les ardeurs de feu par des fulgurations. J'ai bien aimé. Les fulgurations de l'amour de Dieu. Et verset 27. Je vis encore comme un éclat étincelant ayant l'aspect du feu qui rayonnait tout autour. Depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en haut, et depuis ce qui semblait être ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu et toute une clarté autour de lui. Feu. Dieu est une personne en feu. Et vous savez quoi? C'est notre destinée. Nous sommes appelés à devenir de plus en plus brûlants, à être enflammés, à être embrasés au contact de cet amour. Ézéchiel 10. Alors c'est triste évidemment dans Ézéchiel parce que cette gloire est appelée à partir. Mais je vous rappelle que dans Isaïe, à partir du verset chapitre 40, la gloire de Dieu revient. Et nous sommes sur le retour de la gloire. La gloire de Dieu, le retour. Verset 2. L'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, entre à l'intérieur du tourbillon sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins. Voilà exactement ce que je crois que je ressentais. Vêtu de lin, c'est nous. Le lin, c'est la justice. Nous sommes vêtus de justice. La justice de Christ nous a été apposée. Elle nous a été posée dessus. Nous ne sommes pour rien. C'est un cadeau. Nous la recevons. Nous abandonnons. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'abandonner notre propre justice. Que notre propre justice devienne comme le manteau que Jacob a reçu. Jacob a reçu un manteau souillé de sang, détruit, déchiré. C'est notre justice. On l'abandonne. Jésus a pris notre vieux vêtement souillé. Il l'a pris. On l'abandonne aux bêtes. On l'abandonne au passé. On l'abandonne au feu. Et on se revêt de justice. Quand Jacob a retrouvé son Joseph, il était vêtu de la gloire des vêtements royaux d'Égypte. Il avait le vêtement magnifique du règne du maître de l'Égypte. Joseph a dit à Jacob, « Je suis devenu le maître de l'Égypte. » Il avait les vêtements royaux. Et voilà les vêtements que Dieu a pour nous. Des vêtements royaux, des vêtements de justice, nous sommes vêtus de lin. Et maintenant tu vas sous les chérubins, là où il y a le feu, tu vas au milieu du feu, tu rentres au milieu de la fournaise, et tu remplis tes mains, tu laisses le feu te brûler, te changer. Ta nouvelle nature ne va jamais être brûlée, il n'y avait aucune odeur de feu. Mais ta vieille nature, oui, elle va commencer à partir, elle va être brûlée. Tu remplis tes mains de charbon ardent, tu les prends sous les chérubins, et qu'est-ce que tu fais avec? Qu'est-ce que tu fais avec? J'étais estomaqué quand j'ai vu. Répands-le sur la ville. Répands-le sur la ville. Répands-le sur la ville. Amen. Tu entres dans la fournaise de l'amour de ton Dieu pour toi. L'amour passionné de Jésus, son cœur qui ne bat que pour toi. Tu y vas. Tu connais le passage secret. Tu connais le lieu de sa présence. Tu goûtes à l'amour du Père. Tu demeures dans sa présence. Tu es changé par le feu. Tu es embrasé. Tu es transformé. Tu deviens noble fils de Sion, une noble fille de Sion. Tu es revêtu de vêtements royaux, des vêtements de justice. Et tu vas commencer à prendre le feu. Tu le prends au milieu de la fournaise. Et tu vas commencer à le répandre dans la ville, là où tu es. Et la ville va commencer à être embrasée du feu de Dieu. Le feu de Dieu va commencer à remplir la ville parce que toi, tu es enflammé. Tu es devenu une fournaise ardente. Tu es enflammé du bas jusqu'en haut. Tu n'es devenu tout du feu. Et ce feu va toucher la ville, là où tu es. Et le Seigneur insiste au verset 7. Alors le chérubin étendit la main entre les chérubins vers le feu qui était entre les chérubins. Il ne faut pas me demander pourquoi le Seigneur répète les chérubins trois fois, mais il y a une raison certainement. Il en prit et le mit dans les mains de celui qui était vêtu de lin. Il le prit et sortit. Et on voyait au chérubin une forme de main humaine sous leurs ailes. C'est pas beau? On voyait au chérubin, le verset suivant, tu veux bien le mettre? On voyait au chérubin une forme de main humaine. Il y a de l'humanité dans le feu de Dieu. Et l'humanité qui est présente, c'est la tienne. C'est toi. C'est toi qui apparais. Tu es appelé à rentrer. Tu vas prendre ce feu. Il y a ta main humaine. Sous le chérubin, il y a ta main humaine qui est venue. Tu es venu, tu t'es approché. Et tu goûtes du feu. Et tu commences à le prendre pour ta vie. Et tu l'emmènes dans la ville. Amen. Alléluia, Seigneur. Nous te rendons grâce. Te rendons gloire. Nous voulons apprendre à goûter le feu de ta présence. Nous ne pouvons pas nous en passer. Nous savons qu'il y a un danger, Seigneur, parce que nous allons être obligés de changer de vie. Il y a des choses que nous devons abandonner, des choses auxquelles nous devons renoncer. Seigneur, sinon elles vont exciter ta jalousie. Le choix n'est pas énorme et le temps devient même court. Parce que Seigneur, là où nous ne tranchons pas, là où nous ne faisons pas les choix, ta jalousie va le faire pour nous. Et Seigneur, du feu va descendre sur des choses que nous croyons qui étaient assez bien. Et Seigneur, toi, tu n'en voulais plus. Et Seigneur, ça va les consumer. Parce que la jalousie de Dieu est en train d'être allumée pour son peuple. Parce que la jalousie de Dieu vient sur les nations. Si les nations ne sont pas touchées de l'amour de Dieu, du feu de la passion de Jésus, elles goûteront la jalousie sous la forme de la colère de Dieu. La jalousie nous pousse. La parole de Dieu dit, l'amour de Christ nous étreint et nous presse, nous serre. Il nous laisse peu d'espace, nous étreint, nous convainc, nous dit combien il nous aime. Parce que nous savons que si un mot est mort pour tous, alors tous donc sont morts. Et parce que nous sommes appelés à aller, nous sommes appelés à guérir les nations, nous sommes appelés à les réconcilier avec Dieu, à être des ambassadeurs dans les nations, afin qu'elles ne goûtent pas la jalousie de la colère, mais qu'elles goûtent juste la jalousie de l'amour. Alléluia, Jésus. Donne-nous d'entrer maintenant dans le lieu de ta présence de plus en plus, Seigneur. Donne-nous de faire les choix. Donne-nous, aide-nous, parce que je sais que c'est un combat. On a du mal, je n'y arrive pas encore. Je te demande, je crie à toi, afin que tu me donnes d'entrer dans le feu de ta présence, personnellement, d'être embrasé de ta gloire et de ton feu, Papa, au nom de Jésus. Amen.